l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Et direction Lourdes, où nous vous proposons de suivre ce programme Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous sortez du bureau, vous êtes dans votre voiture, eh bien, mettez-vous à l'aise. Nous allons passer une petite heure en chronique et en musique. C'est le dernier vendredi avant la rentrée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le soleil a changé de teinte. C'est plutôt l'automne que l'été. Mais c'est pas grave, nous sommes ensemble, donc nous allons passer un bon moment avec, dans quelques instants, la chronique verte de Benoît Guillard, qui nous proposera de partir à Vic-en-Bigorre, dans le nord du département des Hautes-Pyrénées, à la découverte de la Maison de la Jeunesse et de la Culture, la MJC de Vic-en-Bigorre. Nicolas Dorgegène nous proposera son coup de cœur en librairie. Il nous parlera d'un livre dont le titre est « Combat spirituel ». La chronique solidaire de Anne Deslois aujourd'hui nous proposera de redécouvrir Jean-François Guiraud, qui est bien engagé dans le mouvement CCFD. Et puis enfin, eh bien, la promenade pyrénéenne proposée par Catherine Albrecht toutes les semaines nous amènera à la découverte de certains écrits de Antoine Blondin. C'est un contemporain puisqu'il est du XXe siècle, si on peut dire qu'il est encore contemporain de notre époque. Voilà le sommaire de cette heure que nous allons passer ensemble avec de la musique. D'ailleurs, Laurent Voulzy, Sting ainsi que France Gall et Thomas Boissy nous accompagneront. Voici les titres des infos.
À la une de ce vendredi 28 août, à Toulouse, Jean-Luc Moudin qui a tenu sa conférence de rentrée consacrée à l'adaptation des écoles au réchauffement climatique. Le maire a rappelé les 500 millions d'euros déjà investis et fixe à un nouvel objectif, équiper chaque école d'un espace climatisé d'ici la première moitié de son mandat, en plus du développement des cours-oasis végétalisés. Nouvelle étape également pour le chantier du métro toulousain. Le tunnelier Marie-Thérèse de Villeneuve-Arifat a achevé sa mission au Puy-Saint-Sauveur. Un deuxième tunnelier sur cinq a terminé son parcours. Le chantier de la ligne C est désormais atteint 70% de son itinéraire pour une mise en service toujours prévue fin 2028. Dans le Gers, trois lycéens de seulement 17 ans ont fondé Gers Terre d'Avenir, un mouvement citoyen et partisan destiné à porter la voix de la jeunesse gersoise auprès des élus du département avec l'éducation et l'emploi comme priorité. Du côté du sport, le feuilleton judiciaire se poursuit pour le Stade toulousain. La commission d'appel de la FFR a légèrement réduit l'amende infligée au club pour des infractions au salary cap, désormais fixée à 2,725 millions d'euros. Le club dispose encore de plusieurs voies de recours pour poursuivre le combat. Et enfin, à Lourdes, les inscriptions pour la venue du Saint-Père, le pape Léon XIV, sont désormais closes. La jauge maximale de 150 000 personnes a été atteinte ce jeudi, un mois tout juste avant l'événement prévu les 26 et 27 septembre prochains.
Eh bien, retour de l'information dans une petite demi-heure. En attendant, voici la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, j'ai fait le choix d'aller à Vic-en-Bigorre, d'aller à la rencontre d'une association, l'association la MJC, Mouvement des Jeunes et de la Culture, de Vic-en-Bigorre. Je suis avec la présidente de cette association, Claire-Odile Dramard, et avec son animatrice, celle qui porte la dynamique, Syrah Petchot. Bonjour mesdames Et puis merci de m'autoriser quelques moments d'échange et de discussion. Ce qui m'intéresse et ce qui m'a beaucoup intéressé en fait, c'est au regard d'une affiche qui est exposée sur Vic en Bigorre, Gratiferia. J'ai découvert qu'en fait derrière cette affiche, il y avait énormément d'activités et énormément de monde. Madame la Présidente, Claire Audelgramar, peut-être un petit mot de présentation ?
Bonjour, bien écoutez, moi je suis arrivée sur le territoire en 2016. Précédemment, j'habitais en Ariège. J'ai toujours été investie et intéressée par les associations d'éducation populaire. Et donc quand je suis arrivée ici, j'ai simplement pris contact avec l'association d'éducation populaire de la ville dans laquelle je venais de m'installer. Et puis voilà, de prendre contact, de s'impliquer de plus en plus. Ben voilà, je me suis retrouvée au conseil d'administration et puis au poste de présidente, assez naturellement.
Alors on va aussi présenter Syrah. Bonjour Syrah.
Bonjour, je travaille à la MJC déjà depuis longtemps en tant qu'animatrice d'abord des vacances et puis finalement embauchée par la MJC je crois déjà en 2002, ça commence à remonter. Et depuis 2015 je suis embauchée par la Fédération Régionale des MJC qui est mon employeur et qui affecte donc mon travail ici à la MJC de Vic. Donc je suis dans un réseau d'une centaine de MJC sur la région et ça c'est hyper important, c'est ce qui maintient aussi la dynamique. Voilà. C'est un travail qui demande beaucoup de travail mais beaucoup de plaisir, qui donne beaucoup de plaisir aussi. Voilà. D'où le grand nombre d'activités qu'on propose.
Alors justement, j'ai bien noté que dans votre signature pratiquement, j'ai lu contribution à la création et au maintien des liens sociaux. Et donc comment on fait pour justement essayer de maintenir, contribuer et dynamiser tout un territoire, puisque vous êtes sur un territoire, et là peut-être que vous allez nous expliquer ce que vous faites, parce que ça nous intéresse tous.
Bon, alors déjà, plus que mouvement, nous, c'est maison des jeunes. Et c'est vraiment ça, c'est animer un lieu qui est une maison, où les gens puissent se sentir comme dans une maison, mais parfois chez eux, dans leur maison, peut-être qu'ils ne retrouvent pas assez de monde et que pouvoir le retrouver ici. Donc, soit pour apprendre tous ensemble, soit pour se divertir, soit quand il y a un besoin de garde, que les enfants puissent rester aussi. Donc, on va accueillir sur notre plaquette, un peu d'humour, on dit de 3 à 103 ans, mais c'est pas si faux, puisque nous allons proposer de l'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires pour les enfants de 3 à 12 ans, qu'on maintient avec des équipes de jeunes qu'on embauche pour les vacances, voilà, de façon motivée, ils ont un engagement éducatif à proposer, et c'est vraiment ce qu'on cultive. Pour les ados de 12 à 17, un peu pareil pendant les vacances, on va proposer aussi des activités, mais aussi un accueil tout au long de l'année, puisque nous avons maintenant un poste d'animateur jeunesse là-dessus. Et donc c'est aussi un accueil le mercredi, certains vendredis soirs, pourquoi pas les samedis aussi. Voilà. Nous allons avoir pour les adultes, on anime un espace de vie sociale. Et donc dans ce cadre-là, eh bien, aux côtés de la Maison départementale de solidarité, le conseil départemental, on anime un collectif qui s'appelle le collectif Mandela. Et l'idée de ce collectif, c'est retrouvons-nous, sortons de la maison, parce que si c'est trop dur à être tout seul, eh bien, venons retrouver du collectif et faisons ensemble. Voilà, donc se retrouver à faire ensemble. Et l'animation locale qui fait partie de cette vie sociale, puisque nous, dans notre animation locale, c'est toujours gratuit, quasiment, ou alors c'est à prix libre. Et donc chacun peut participer de 0 à 500, hein, s'il veut nous laisser un chèque, il n'y a pas de problème, sur des animations culturelles, festives, et souvent familiales, mais pas que. Voilà, où l'interjet est toujours recherché aussi.
Alors, Madame la Présidente, bon, moi je sais que cette association, c'est plus de 500 personnes qui sont réunies autour de cette idée. Alors déjà, comment on fait pour arriver à réunir tout ce monde-là ? On l'a compris au travers des activités, des propositions, mais sur ce territoire de Vic-en-Bigorre. Et puis, en tant que présidente, est-ce que vous arrivez à mettre en place une équipe autour de vous et à trouver des bénévoles pour travailler, pour construire avec vous et autour de l'équipe de professionnels les animations que vous souhaitez mettre en place?
Oui, alors je pense que l'éducation populaire, ça a de particulier qu'il ne faut pas il ne faut pas tomber dans le seul cadre de l'animation socioculturelle. L'idée, ce n'est pas de proposer une banque d'activités avec des tarifs et des gens qui viennent consommer des activités. On n'est pas des prestataires d'activités. La dimension un petit peu philosophique, elle est plus large. Et comme le disait Syra, l'idée, nous, c'est vraiment d'implanter un lieu, une maison, au sein de laquelle les personnes peuvent se réaliser, se construire. Comme elle l'a dit, se divertir ensemble, réfléchir, penser le monde ensemble et se retrouver. Et c'est ce tissage, ce tricotage, il est là le lien. Le lien, c'est pas une corde qu'on jette et des gens qui s'accrochent dessus. C'est tout un tricotage des relations. En fait, on dit le mot lien, mais c'est surtout des relations qui se créent entre les gens. Des relations d'amitié, des relations de partage, des moments. Notre projet, c'est de favoriser ces rencontres, de faire en sorte que les gens se sentent chez eux. Et pour cela, en fait, on est une équipe un peu mixte, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de salariés, dont c'est le travail, avec aujourd'hui quand même des contraintes techniques sur l'administration d'une association avec 500 adhérents. Et on est aussi une équipe de bénévoles au conseil d'administration qui, là, par nos convictions, nos valeurs, on décide de passer notre temps libre à réfléchir à l'évolution de l'association, aux orientations qu'on veut lui donner. Est-ce qu'on veut faire des actions, proposer des actions plus dans une direction ou dans une autre? Et ça, on le décide ensemble. Donc effectivement, le travail est un peu particulier. C'est pas tout à fait comme une entreprise qui déciderait avec un plan de rentabilité financière, par exemple, qu'on va mettre en place telle ou telle activité. Nous, on met des activités en place quand elles correspondent à une envie des personnes et quand des personnes nous ont sollicité pour développer des activités. Je sais pas si j'ai répondu.
Alors oui, tout à fait. Et justement, ça me permet de faire le lien avec Gratiferia. Puisque effectivement dans les activités vous organisez des événements et donc Gratiferia, le marché gratuit, bon, expliquez à nos auditeurs.
Alors la Gratiferia, c'est un concept fantastique qu'une adhérente bénévole a ramené un jour parce que c'est exactement le mariage de ne pas laisser traîner des affaires à la maison qui ne servent plus mais qui pourraient servir à d'autres dont on ne veut plus. Et aussi justement permettre à tous de participer et dans ce côté social se rencontrer. C'est une journée détendue. Voilà, nous on aime accueillir en pesant les affaires mais ça nous fait beaucoup rire, c'est plus qu'une valeur fonctionnelle réelle. Et quand même ça nous permet d'évaluer qu'on reçoit entre 1 et 2 tonnes d'affaires, voilà, et que la moitié en général repart chez les gens. Ce que l'on en fait après, c'est le Secours Populaire qui fait une sélection parce qu'ils ont un petit magasin ici et donc ils sélectionnent quelques affaires pour leur magasin et d'autres repartent directement chez Emmaüs où on sait qu'elles seront triées et à nouveau valorisées. Voilà, c'est comme ça que l'on fonctionne. On en a 2 par an.
Gratiferia, vous accueillez aussi d'autres manifestations à cette occasion parce que c'est une façon aussi de faire du lien entre les associations.
Oui, nous, on adore les partenariats en général parce qu'on trouve ça riche, ça nous remue, ça nous oblige à réfléchir à nouveau comment s'adapter, comment faire ensemble. Et justement, Claudie en parlait tout à l'heure, c'est faire société, c'est réfléchir ensemble. Eh bien, ça, c'est une asso qui se met à réfléchir et qui nous amène vers ce courant, faire réfléchir et réfléchir avec d'autres. Voilà, donc quand Agriculture et Société nous a parlé de ce projet et de diversifier les publics qui le fréquentent, nous on a dit ben chouette, nous on en a plein de publics diversifiés et on adorerait participer à ça. Voilà, et la Gratiferia, ben, par exemple, c'est, on travaille ça avec aussi le Secours Populaire, avec le lycée, parce qu'au printemps on l'organise avec le festival Arter, organisé par les étudiants du lycée Jean Monnet, et on va animer avec eux au printemps. Voilà, donc c'est pareil. Ça a été une contrainte, c'est une contrainte pour organiser. Ça serait beaucoup plus simple si on la faisait sans eux quelque part, mais ça nous fait très plaisir d'avoir cette contrainte avec eux.
On arrive à la fin de notre émission, simplement. Ma dernière question, on va aller vers la présidente. L'association est importante, elle est dynamique et vous êtes jeune, parce que moi je vous vois, donc vous êtes jeune. Donc, dire aussi à nos auditeurs que dans ce contexte-là, sur un territoire comme Vic-en-Bigorre, il faut effectivement avoir à la fois du courage et puis avoir envie d'apporter tout ce que vous avez envie de partager, vous l'avez dit, hein, dans l'éducation populaire. Et ma question va être, au bout de votre mandat, qu'est-ce qu'il sera important de réussir par rapport à votre vision et aux objectifs que vous étiez donnés ?
Je ne m'étais pas spécialement donné d'objectifs. Moi, je suis dans cette association parce que je considère que je peux être utile à cet endroit-là et parce que ça me fait plaisir de participer à quelque chose de collectif. Néanmoins, si je devais avoir un petit critère de réussite, en tout cas sur l'association, je pense que l'accroissement du nombre d'adhérents, c'est un signe que l'association est utile à la société. La joie et le plaisir partagé, l'ambiance, c'est pas très mesurable ça, hein. Dans l'entreprise on mesure pas très bien la qualité de l'ambiance, mais nous oui, nous on mesure et venir à la MJC parce qu'on aime ça et pas parce qu'il faut, parce que c'est l'heure, ça c'est un critère important de réussite.
Merci beaucoup, merci Syrah, merci Claire-Odile, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour la dynamique et la joie que vous portez et la passion, parce que moi je vois deux femmes passionnées. C'est aussi important de pouvoir le traduire à nos auditeurs. Merci infiniment et chers auditeurs, au revoir.
Merci Benoît Guillard, on vous retrouvera avec plaisir dès vendredi prochain. En attendant, à suivre sur Présence Midi, le coup de cœur en librairie en compagnie de Nicolas Dargegène. Juste après, chose promise, chose due, Laurent Voulzy.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie et je chante ma peine loin celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Charme, j'aurais aimé vous plaire et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, si la vie est un rêve, Jeanne, au bois dormant, vous prendriez ma vie, je prendrais votre main. Nous irions dans un lit comme des amants. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Je chante ma peine loin de celle que j'aime.
Laurent Voulzy sur Présence.
Présence à Pamiers, 100.2.
Et à 12h20 sur Présence Midi, c'est l'heure de retrouver, comme tous les vendredis, le coup de cœur en librairie proposé aujourd'hui par Nicolas Dargegène.
Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est un livre qui nous amène à partir en guerre. Ce livre, c'est Le combat spirituel par le père Joël Guibert, édité chez Arthège en 2020 et sorti en poche en 2024 chez Efata. En effet, c'est bien à une guerre que l'auteur, prédicateur renommé, nous entraîne dans cet ouvrage. Mais le sous-titre du livre nous permet d'en comprendre la raison, car cette guerre, ce combat, est la clé de la paix intérieure. Le père Guibert l'explique dans son introduction. La paix intérieure. Qui parmi nous n'aspire pas à ce bien supérieur ? La sérénité profonde. Qui ne court pas après ? L'unité paisible de tout l'être. Qui ne la poursuit pas ? Mais voilà, pour obtenir un tel trésor, pour entrer dans la paix du cœur, il faut se préparer à la guerre. Tel est le paradoxe que beaucoup ne saisissent pas et qui les prive de la paix profonde et durable. Oui, il n'y a pas de sérénité personnelle sans une guerre impitoyable contre certaines inerties qui nous paralysent. Pas de paix intérieure sans combat spirituel. Il y a un lien très important entre le combat spirituel et la paix intérieure. L'un ne va pas sans l'autre. Le combat spirituel, ce n'est pas la finalité de la vie spirituelle. La finalité de la vie spirituelle, c'est l'union à Dieu et donc le bonheur et la paix de Dieu. Le paradoxe est qu'on ne peut pas obtenir cette paix sans combat. Il faut entrer en guerre pour avoir la paix, il faut se fatiguer pour entrer dans le repos. Ce n'est pas le combat pour le combat, mais c'est un combat pour la paix. Pourquoi y a-t-il un combat ? Eh bien, parce que nous naissons divisés, blessés par le péché originel. Nous naissons sortis de notre axe, nous avons quitté notre orientation profonde qui est de vivre à partir de Dieu, à partir de notre centre qui est Dieu. Le combat spirituel est de réunir toutes nos forces à partir du centre qui est Dieu, se recentrer vers Dieu, réorienter tout notre être vers notre Dieu Trinité. Le combat spirituel est d'abord l'affaire de Dieu, mais on n'est pas seul. Le combat spirituel a déjà été gagné par la mort et la résurrection du Christ. Ce combat, c'est se brancher sur la victoire du Christ qui a vaincu la mort. Le combat spirituel, ce n'est pas moi tout seul qui vais me battre. Le Christ nous a donné toutes les armes pour combattre, c'est-à-dire l'Église, les sept sacrements, la prière, la charité, les sacramentaux, la Sainte Vierge, les anges, les saints. Il y a une grande part de combat gagné quand on se met en état de se recevoir de la victoire du Christ et non pas dans une volonté de combattre seul. Dans cette lutte, dans ce combat, nous devons combattre deux maladies de l'âme, la philotie et la sédie. La philotie, le mot est très beau, cependant c'est une grave maladie, car il s'agit d'un amour démesuré de soi allant jusqu'au mépris de Dieu, au fait qu'on ne sait plus ou qu'on ne veut plus entendre Dieu. C'est une maladie très répandue dans notre monde moderne. Et puis il y a la sédie, une désespérance profonde dont souffre l'homme. Voici deux maladies, deux tentations à éviter pour mener à bien le combat pour retrouver la paix et la joie dans la confiance en l'amour de Dieu. Le père Guibert nous propose un remède concret pour guérir de ces maux. Savoir dire oui à sa vie, à son histoire. C'est une attitude où le rejet de la rancœur et le pardon tiennent une place essentielle. Le cœur du combat, c'est arriver à s'abandonner à Dieu. Et donc le combat doit être enchâssé dans l'abandon. La grâce de l'abandon à Dieu va nous permettre de vivre le combat. La miséricorde de Dieu va nous permettre de nous relever. Et puis, le combat est long, mais nous ne sommes jamais seuls. Il nous faut être à l'écoute de l'Esprit, se laisser guider par la sagesse de l'Église et s'abriter sous le manteau de Marie. Car Marie est là dans nos heures d'angoisse, elle est là dans nos nuits de la foi. Marie a reçu de Dieu la mission particulière de nous conduire à travers les ténèbres et de nous rafraîchir par sa présence. Le père Guibert cite saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui écrivait dans le traité de la vraie dévotion « Cette bonne mère et maîtresse rend si proche et si présente à ses fidèles serviteurs pour les éclairer dans leurs doutes, pour les affermir dans leurs craintes, pour les soutenir dans leurs combats et leurs difficultés, qu'en vérité ce chemin virginal pour trouver Jésus est un chemin de rose et de miel. » Marie est là, présente, elle intervient pour nous. Le père Guibert nous propose là un ouvrage clair, constructif et enthousiasmant qui nous permet d'avoir des forces pour ce combat, pour obtenir une véritable paix intérieure. En cette période anxiogène, la lecture de cet ouvrage s'avère précieuse pour surmonter les subtiles et perverses manœuvres de Satan, dont le projet est de détourner l'homme du bonheur pour lequel Dieu l'a créé. La recherche de ce bonheur ne doit cependant pas être confondue avec la quête d'un développement personnel qui risque d'évacuer la croix, de négliger les moyens offerts par la grâce, la prière et les sacrements, et de chercher l'équilibre dans un optimisme qui est une contrefaçon de l'espérance. Le père Guibert l'écrit d'ailleurs, l'oubli de l'âme est la plus grande pauvreté de nos sociétés sophistiquées et la cause principale de leur grand mal-être. Voilà un bon livre pour cheminer pendant le carême. D'ailleurs, le père Guibert prêchera à Lourdes une recollection à la paroisse du 28 au 30 mars sur le thème « Les clés de la paix intérieure », un bon moment de pause spirituelle à venir, ouvert à tous. Le combat spirituel « Clé de la paix intérieure » par le père Joël Guibert, édité chez Arthège et chez Efata, pour la version en format de poche, est en vente à la librairie de la Grotte à Lourdes et dans toutes les librairies.
Merci Nicolas d'Argegène. La semaine prochaine, ce sera le frère Martin de l'abbaye de Tournaille. Il est 12h26. Très très bon appétit si vous êtes à table. Dans quelques instants, le rendez-vous de l'information avec le journal complet de la rédaction de Présence. En attendant, voici Sting.
He deals the cards as a meditation. Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. Play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
À suivre sur Radio Présence, dans la demi-heure qui suit, nous serons en compagnie de Anne Deslois pour sa chronique solidaire. Et puis, bien sûr, nous aurons la promenade pyrénéenne hebdomadaire en compagnie de Catherine Albrecht qui nous présentera l'auteur d'aujourd'hui, Antoine Blondin. Il est 12h passé de 31 minutes à la pendule de présence. Très très bon appétit. Voici le journal de la mi-journée.
Bonjour à tous. Alors que 30 000 enfants s'apprêtent à faire leur retour dans les écoles de Toulouse, Jean-Luc Moudenc a tenu sa traditionnelle conférence de rentrée mercredi, consacrée notamment à l'adaptation du bâti scolaire au réchauffement climatique. Le maire de Toulouse a rappelé que la collectivité avait déjà dépensé 500 millions d'euros dans un entretien et travaux d'adaptation, un montant dit du jamais vu à Toulouse. Depuis le printemps, les 1506 classes des écoles toulousaines sont équipées de brasseurs d'air, une première parmi les grandes villes françaises. Mais lorsque la canicule est à son sommet, ces brasseurs ne suffisent pas. L'objectif est désormais d'équiper chaque école d'un espace climatisé, comme un réfectoire ou une salle de jeu. Plus de 80 établissements en bénéficient déjà, l'ambition étant de généraliser ce dispositif pour toutes les écoles d'ici la première moitié du mandat. Autre levier, le développement des cours oasis, plus végétalisés dans 213 écoles de la ville. 133 sont déjà aménagées et 10 nouvelles seront accessibles dès la rentrée. Pour la première adjointe à l'éducation, Marion Lalanne de Lobadère, l'objectif reste clair, garder les écoles ouvertes dans de bonnes conditions, mais en cas de forte chaleur. Nouvelle étape pour le chantier de la ligne C du métro toulousain. Tisséo Ingénierie a procédé lundi au premier levage de la roue de coupe du tunnelier au Puy Saint-Sauveur, où il a achevé son parcours de 4 km depuis Montaudran. C'est le deuxième tunnelier de la ligne à terminer sa mission sur les 5 engagés. À ce stade, plus de 15 des 22 km de tunnel ont déjà été réalisés, soit environ 70% de l'itinéraire. Le dernier tunnelier doit sortir de terre au premier trimestre 2027 pour une mise en service toujours prévue fin 2028. Éducation, emploi, citoyenneté ou protection de l'enfance, trois lycéens gersois de seulement 17 ans viennent de créer Gerster d'avenir, un mouvement politique mais apartisan selon ses fondateurs. Nathaël Corassin, déjà engagé l'an dernier pour le maintien d'un poste d'infirmière scolaire à Auch, a fondé ce mouvement avec ses amis Nathan Rieux et Elio Tchetchouti. Tous deux ont déjà engagé dans des structures sportives et associatives à Pavie. Déclaré en association le 12 août, l'initiative ambitionne de porter des propositions concrètes auprès des élus locaux, avec pour objectif de donner davantage de poids à la jeunesse dans un département confronté au vieillissement de sa population. Pour cette première année, le mouvement concentre ses efforts sur l'éducation et l'emploi des jeunes, avec des pistes comme faciliter l'accès aux stages ou développer l'offre d'enseignement supérieur dans le Gers. Les trois adolescents comptent désormais multiplier les démarches auprès des députés, conseillers régionaux et élus locaux, avec pour objectif de créer un véritable dialogue entre la jeunesse gersoise et les décideurs. Le feuilleton judiciaire se poursuit pour le Stade toulousain. Ce jeudi 27 août, la commission d'appel de la Fédération française de rugby a annoncé une légère réduction de la sanction infligée au club pour les deux affaires liées à des infractions au salary cap, le plafond salarial du top 14. L'amende passe ainsi de 288 millions à 200,725 millions d'euros. Le club rouge et noir avait déjà été reconnu coupable d'avoir dépassé ce plafond autorisé lors des trois des quatre dernières saisons, ainsi que des manquements à son obligation de transparence entre 2021 et 2025. La saison 2024-2025 ne fait toutefois pas l'objet d'une infraction pour dépassement de ce plafond. Cette nouvelle sanction vient s'ajouter à un été déjà très agité pour le club, marqué par les départs annoncés de Thomas Ramos, François Cross et du manager du haut niveau Jérôme Casalbou. Le Stade toulousain dispose encore de plusieurs voies de recours pour poursuivre son combat, à commencer par une conciliation devant le CNOSF avant une possible bataille devant la justice administrative qui irait jusqu'au Conseil d'État. Et puis enfin, à Lourdes, les inscriptions pour la venue du Saint-Père, le pape Léon XIV, sont désormais closes. Exactement un mois avant l'événement, le sanctuaire a annoncé ce jeudi 27 août avoir atteint sa jauge maximale de 150 000 personnes, 17 jours seulement après l'ouverture des inscriptions, pour rappel le 10 août dernier. D'abord fortement recommandée, l'inscription était ensuite devenue obligatoire, le site étant contraint et ne pouvant accueillir tout le monde. Les personnes déjà inscrites recevront dans les prochains jours par email leur titre d'accès à présenter à l'entrée du sanctuaire pour rejoindre la prairie ou l'esplanade du Rosaire le jour des célébrations. Le pape Léon XIV est attendu à Lourdes le samedi 26 en soirée, avant de présider le lendemain une messe en plein air et de participer à une procession au flambeau. L'engouement est tout simplement incroyable, souligne David Torchala, directeur de la communication du sanctuaire de Lourdes, qui évoque bientôt 1 million d'inscrits au total pour les célébrations du pape à Paris, à Metz et à Lourdes.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous. Je reçois aujourd'hui sur les ondes de Radio Présence Lourdes Monsieur Jean-François Guiraud. Jean-François, bonjour.
Bonjour Anne.
Alors Jean-François, vous avez été le directeur diocésain pour les pèlerinages du diocèse de Besançon, puis après vous êtes engagé comme acteur de la solidarité, alors à la fois dans le diocèse de Besançon avec le CCFD Terre Solidaire, et puis aussi comme acteur actif, vraiment très actif dans la solidarité, dans ce qui est proposé à l'espace rencontre du CCFD Terre Solidaire ici à Lourdes.
Absolument, et je suis arrivé au CCFD Terre Solidaire à Lourdes par le biais des pèlerinages, puisque c'est comme ça que j'ai rencontré le CCFD à Lourdes, que je connaissais un petit peu par le CCFD de mon diocèse, mais je n'avais pas les liens avec le CCFD de mon diocèse que j'ai actuellement avec le CCFD de Lourdes.
Tout au long de cette année, sur les ondes, nous allons recevoir des acteurs de la diaconie, du service du frère, donc des acteurs de la solidarité et de la fraternité du diocèse de Tarbes-Lourdes. Vous êtes agrégé en lettres classiques, et avec vous, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, bien qu'on revienne sur le sens des mots. Vous savez, on est dans une société où on emploie des fois un mot pour un autre, etc. Et puis des fois, on se dit, ben non, mais les mots ont un sens. Alors, avec vous, je voudrais qu'on travaille sur le sens de ce qu'est la solidarité. La fraternité et la diaconie. Alors, la diaconie, c'est même un terme un peu difficile qu'on n'emploie pas souvent. Donc, avec vous, on va essayer de mieux entrer dans ces trois termes. Qu'est-ce qui les différencie? Alors, tout d'abord, si vous voulez bien, on va se dire la solidarité. Qu'est-ce que la solidarité?
Oui, c'est bien de commencer par ça. C'est un mot qui me parle, évidemment, en tant que bénévole du CCFD Terre solidaire, le mot de solidarité me parle. Alors j'ai effectué quelques recherches, à la fois dans mes souvenirs et puis dans quelques dictionnaires. Alors l'origine du mot solidarité est intéressante. Ça vient du latin solidus. Pardonnez-moi ce détour par l'étymologie, mais souvent je pense que le détour par l'étymologie permet d'éclaircir ou de préciser le sens parfois un petit peu imprécis de tel ou tel mot. Alors ce mot solidus en latin, il veut dire entier, consistant, et il exprime le lien unissant entre eux les débiteurs d'une somme. Et ça me paraît une idée extrêmement intéressante parce que ça nous fait bien comprendre, enfin ça nous permet de mieux comprendre, du moins je le crois, l'esprit de la solidarité que nous devons avoir, parce que nous sommes les uns et les autres les héritiers de quelque chose que nous avons reçu et dont nous sommes collectivement responsables, les uns par rapport aux autres. Et ce mot solidarité désigne aussi, enfin exprime aussi le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe entre des personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. Ce qui induit comme conséquence la nécessité de se comporter comme si nous étions directement confrontés toujours aux problèmes des autres, sans quoi l'avenir de tous serait compromis. À l'appui de cette affirmation, je reprends volontiers ce que l'on dit fréquemment au CCFD Terre Solidaire, où on fait le lien entre ce que l'on appelle l'ici et l'ailleurs, en disant assez fréquemment, l'acte, le geste, le propos que nous tenons ici, il peut avoir des répercussions que nous ne soupçonnons pas, loin ailleurs. Ça rappelle cette fameuse histoire du battement d'aile d'un papillon, hein, qui, dans une région, peut provoquer un typhon à l'autre bout du monde. Et je crois que cette idée de solidarité, enfin de lien nécessaire entre ici où nous sommes, hic et nunc, maintenant, et puis là-bas où sont les autres, est une idée extrêmement importante et ça éclaire la notion de solidarité.
Et du coup, j'ai envie de dire, c'est des liens solides entre les peuples.
Solidus, absolument.
Solides entre les peuples.
Voilà.
Donc la solidarité, c'est vraiment créer des liens pour toujours entre celui qui est différent de nous ou le même que nous. Ça peut être des liens de grande proximité.
De grande proximité, oui. Et puis, nous ne soupçonnons pas, ni forcément, ni toujours, ce caractère entier, plein, solide, pour reprendre le mot que vous avez employé, entre des gens dont on peut penser que parce qu'ils vivent dans des endroits complètement différents du monde, vivent des choses complètement différentes, alors que les problèmes des hommes et des femmes, qu'ils habitent en Europe ou dans un autre coin du monde, en Amérique latine, en Asie, en Océanie ou ailleurs, finalement les problèmes sont, au-delà des différences spécifiques à chaque région, chaque coin du monde, les problèmes humains sont fondamentalement les mêmes.
Alors Jean-François, on peut vraiment dire que la solidarité permet de créer des liens forts, comme vous avez dit. Mais moi, je me souviens, j'ai l'impression, entre les années 80, 90, même dans l'Église, on parlait encore beaucoup d'œuvres de charité, de charité. J'ai l'impression que petit à petit, le terme charité a été remplacé par la solidarité. Quel sens, qu'est-ce qui différencie solidarité et charité ?
C'est une question qui est difficile, et la réponse, bien évidemment, est difficile. D'autant plus que le mot charité a été, semble-t-il, est pénalisé par ce dont on l'a investi, ce mot.
Un peu galvaudé.
Un peu galvaudé, oui. Et puis un peu, ce qui a conduit, me semble-t-il, à déprécier le sens de ce mot charité. Mais par charité, il me semble qu'on désigne l'action, le geste, l'attention que l'on a à l'égard de quelqu'un qui nous est cher. Et on a souvent tendance à confondre cette idée de lien avec quelqu'un qui nous est cher avec lien avec une personne qui nous est, dans une certaine mesure, inférieure par les conditions de son existence. Alors que c'est pas ça du tout. La charité, c'est bien l'attitude que nous devons avoir à l'égard de quelqu'un que nous aimons profondément, parce qu'il nous est cher.
Oui, peut-être qu'on y mettait par un temps dans la charité peut-être une connotation religieuse et solidarité une connotation laïque. C'est peut-être poussé par
ça. Ça peut être ça aussi, la différence,
voilà,
effectivement.
Un lien qui nous est cher, comme vous avez dit. Caritas, voilà. L'amour.
L'amour, absolument.
Alors, venons à la fraternité. Après avoir bien remémoré ce qu'était vraiment profondément la solidarité, si on passe à ce terme de fraternité, comment est-ce qu'il faut l'entendre ? Quelle définition vous en donneriez ?
Alors là encore, je passerai par l'étymologie, le mot latin frater, qui veut dire le frère. La fraternité, c'est le lien unissant, ou du moins qui devrait unir, tous les membres d'une même famille, et plus largement, tous les membres de la famille humaine. C'est extrêmement lié à l'idée de la solidarité. Il me semble que c'est indissolublement lié, ces deux notions. L'idée de la solidarité implique, me semble-t-il, l'idée de la fraternité, et la fraternité nécessite que nous ayons une attitude de solidarité à l'égard de ceux que, étymologiquement, nous considérons ou nous devrions considérer comme nos frères. Bon, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Je me souviens d'une citation d'Alain, le philosophe Alain, qui disait « La fraternité, c'est bien, mais c'est difficile de près. » Voilà. C'est beaucoup plus facile, effectivement, de considérer que ceux que nous ne voyons jamais sont nos frères que d'agir, effectivement, en frères à l'égard d'eux, à leur égard, parce qu'ils sont nos frères et qu'il y a entre eux et nous des liens très profonds qui nous unissent et que l'on a tendance à oublier.
Merci. Et avant donc de terminer notre chronique, venons au terme de diaconique. On dit le service du frère. Alors on a une petite minute ou deux pour nous expliquer ce qu'on entend par diaconie.
Oui, c'est une notion un petit peu compliquée. Disons simplement que le mot diaconie désigne une paroisse qui a à sa tête un cardinal diacre. Étymologiquement, c'est ça, une diaconie. Bon, ça désigne toute une série d'institutions charitables qui portent secours aux nécessiteux, tout comme la fraternité, hein, les gens qui sont sans revenus, sans logement, sans avenir, sans espoir, sans ceci, sans cela. Bon, la diaconie est apparue à Rome à la fin du 7e siècle, et c'était des centres d'assistance. La plus ancienne à Rome, c'est Sainte-Marie in Cosmedine, à proximité du Forum Boarium, le long du Tibre, et qui a été fondée par des Grecs orientaux. Et cette diaconie, à Sainte-Marie in Cosmedine, organisait la distribution de subsistance, de vivres, aux citoyens indigents, à la fin du 8e et au début du 9e siècle. Beaucoup subsistent encore, d'ailleurs, et il y a eu jusqu'à 22 diaconies, dont il reste un certain nombre aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de réfléchir un petit peu plus largement à cette histoire de diaconie, voir comment concrètement ceci est mis en œuvre. Et je me suis rappelé d'avoir participé à Lourdes à un grand rassemblement qui avait été voulu par l'Église et qui s'appelait Diaconia 2013. Et j'ai regardé ce qu'impliquait, ce qui avait été dit, ce qui avait été fait, et j'ai relu attentivement la lettre d'envoi qui avait été faite à l'issue de ces 3 jours. Et j'ai trouvé des notions, des idées qui m'ont semblé extrêmement intéressantes. Alors je vais vous en donner quelques exemples. Ensemble, première recommandation, osons le changement de regard sur les plus fragiles. Ensuite, toujours ensemble, osons le changement d'attitude au sein de nos communautés pour que les plus pauvres y trouvent leur place. Troisièmement, ensemble, osons le changement de politique à l'échelon local, tout comme à l'international. Et enfin, ensemble, osons le changement dans nos modes de vie pour respecter la création où les liens humains sont premiers. Et je me suis dit ça, c'est moderne, c'était, comment dirais-je, prophétique, et c'était l'annonce de ce qui allait suivre 2 ans après, c'est-à-dire l'encyclique du pape François, Laudato si.
Merci Jean-François pour tous ces rappels. À une prochaine fois.
Merci à vous, Anne, de m'avoir reçu.
Une chronique proposée par Anne Deloye. À suivre, Catherine Albrecht, que nous allons retrouver dans 4 minutes 21, très exactement, pour les écrivains pyrénéens. Elle nous fera découvrir Antoine Blondin aujourd'hui, juste après France Gall.
Ils ont des idées plein la tête. C'est des idées pour faire la fête.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
L'Occitanie, un doux nom qui a inspiré nombre d'écrivains célèbres depuis des siècles. Séduit par ses paysages, son art de vivre, son histoire, ses habitants, écoutez, voyagez, rêvez, admirez avec aujourd'hui Antoine Blondin. Antoine Blondin, journaliste et écrivain, à Saint-Jean-Hiver, Les Enfants du Bon Dieu, a collaboré au journal L'Équipe pour lequel il a suivi 27 tours de France. Ses chroniques à l'humour acerbe, truffées de jeux de mots, reflètent avec ironie, drôlerie et beaucoup de compassion les drames et les joies et les travers des hommes du peloton et des suiveurs. Elles font aujourd'hui partie de la légende des cycles. Celui dont on a dit qu'il avait hissé la chronique cycliste au rang de bijou littéraire, lançait le soir à l'étape en s'asseyant à sa table de travail et maintenant au goulot. Le 12 juillet 1971, lors de l'étape pyrénéenne Revel Luchon, Luis Ocaña, alors maillot jaune, chutait lourdement dans un virage de la descente du col de Manté sur la chaussée gorgée d'eau et de boue par un terrible orage. Il était contraint à l'abandon, perdant tout espoir de remporter ce Tour de France qui lui était promis. Voilà l'article d'Antoine Blondin dans L'Équipe du lendemain. Luis Ocaña n'était peut-être pas intrinsèquement le meilleur de cette course, mais il en était le soleil, formant d'ailleurs avec l'astre lui-même un couple indissociable dont la chaleur et le rayonnement complémentaire nous éblouissaient depuis 4 jours. Il aura suffi que le ciel se couvre durant 20 minutes sur les Pyrénées pour qu'un bref cyclone aux dimensions d'un cataclysme couche au sol notre belle épi gorgée de lumière qui s'apprêtait pourtant à retrouver son terreau et son terroir de prédilection pour notre plus grande joie. Le déluge fut, dit-on, envoyé sur la terre en punition de la folie des hommes. Depuis la veille, il régnait effectivement une certaine démence sur les premiers rangs du Tour de France, à la suite d'un accès d'énervement de Merckx, prolongé par des déclarations malheureuses de son directeur sportif, Drissens, et répercuté par quelques reporters trop enclins à se travestir pour la circonstance en reporter de guerre. Comme le parcours devait s'offrir hier après-midi un petit tronçon dans la province de Lérida, on appréhendait le pire. Un conflit entre la Belgique et l'Espagne, l'une envahissant l'autre, pour une sorte de kermesse héroïque à rebours où des affronts vieux de 3 siècles se fussent lavés. Les routiers d'expérience voyaient déjà les pavés voltiger en direction des voitures, comme cela s'était déjà produit dans ces régions. Dès le début de l'étape, il apparut que le climat de la journée serait bien aux hostilités déclarées. On cogitait, on gigotait, avec une émulation meurtrière dans les troupes rivales de Merckx et d'Ocaña. Déjà, le fil de la compétition avait décanté le contingent, et sur les pentes du Porté d'Aspet, les deux chefs avaient jeté les bases d'un duel au soleil qui livrerait un verdict capital à Luchon. C'est alors que les nuages commencèrent à s'accrocher aux branches des sapins, plongeant la vallée dans cette atmosphère électrique et glauque qui prélude au tonnerre de Dieu. Suivirent 2 ou 3 éclairs mous, puis ce fut en un instant le typhon ravageur, la route coupée par des cataractes ou les chariots devant soi, le paysage comme secoué par un immense sanglot. On n'y voyait pas un mètre. Les chocs sourds ébranlaient les véhicules. Nous attendions les pavés, c'était les grelons. Les favoris qui s'apprêtaient à franchir le col de Manté s'étaient frileusement regroupés pour former un peloton de Noé, comme on dit l'arche, où chaque espèce était représentée. Un Bic, Ocaña, un Moltoni, Merckx, un Sonolore, Van Emp, un Flandria, Sutenek, un Mercier, Guimard, un Ferretti, Peterson. Non pas en vue de la reproduction, mais dans l'attente du rameau d'olivier qu'une colombe ne manquerait pas de leur tendre quand les eaux se retireraient. Au moment où l'arc en ciel s'avança, Ocaña gisait dans l'ambulance et les habitants de Saint-Béat applaudissaient en pleurant au passage de son convoi terriblement silencieux. Nous plongions alors vers cette frontière montagnarde, amicale et complice, de part et d'autre de laquelle on parle déjà l'espagnol en France ou encore le français en Espagne, à l'image de celui qui s'en allait en emportant le maillot jaune avec lui. 15 kilomètres le séparaient de son pays natal, où l'attendaient des banderoles désormais dérisoires. Trois jours le séparaient de l'apothéose du Mont-de-Marsan, où il ne fait aucun doute qu'il fut revêtu de la casaque principale. Un deuil immense aux arrière-goûts de frustration et de trahison s'abattit sur la troupe rendue à l'unanimité. Car le rameau d'Olivier existait quelque part. Nous l'avons trouvé dans la bouche d'Eddy Merckx, tout de blanc vêtu, qui refusait à l'arrivée d'endosser le maillot jaune, estimant qu'il ne le méritait pas, et remâchant avec une sportivité sublime cette sorte de défaite que constitue pour un vrai champion une ombre portée sur sa victoire. À travers le regard et les mots d'Antoine Blondin, nous avons pu apprécier son talent et son émerveillement devant notre beau patrimoine. Merci à Jean-Paul Azam pour ses anthologies littéraires illustrées, intitulées « Mots et merveilles d'Occitanie », inspirant tous mes récits.
Merci Catherine Albrecht pour ces chroniques qui nous permettent de voyager un petit peu et de sortir de notre confort, de notre maison pour aller prendre l'air. C'est là-dessus que s'achève ce Présence Midi. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Lundi, c'est la rentrée pour ceux qui ont des enfants. Je vous souhaite bon courage et je vous rappelle l'heure de la prière sur Présence, bien sûr, avec tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année, la prière du chapelet que vous est proposée depuis la grotte de Massabiel pour toutes vos intentions. Très très belle journée à l'écoute des programmes de Présence.
Avec les anges si purs, la mer bergère d'azur infini. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons mouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. A bercé le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer a bercé mon cœur pour la vie.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le bilan de la coulée de boue dévastatrice dans la région de l'Himalaya ne cesse d'augmenter. Vêtements, lait, médicaments, alors qu'une nouvelle